Chapitre 9. En cour d'assises, l'attitude des accusés, un beau réquisitoire, admirable plaidoirie de Maître Moruggiaferri, le verdict. Après une instruction qui dura près de 9 mois, et au cours de laquelle M. Gilbert, à force de patience, d'habileté et de méthode, était arrivé magistralement, c'est le cas de le dire, à établir la part de culpabilité de chacun, 20 accusés, c'est-à-dire Calotmin, dit Raymond la science, Soudi, Dieudonné, Kaoui, Monnier dit Simantoff, Kitchen-Sitché, Detwiller, Deboué, Gauzy, Rodriguez, Belloni, Crozat, Fleury, Jourdan, Reiner, Bénard, Potier, et les femmes Maître Jean, Schutz dit Mario Villemain, Barbe Leclerc, étaient renvoyés devant la cour d'assises. Le 4 février 1919, devant une salle bondée, le président Cugnot devrait ouvrir les débats. Le procureur général Fabre, revêtu de sa robe rouge parée d'hermine et assisté de son substitut M. Bloch Larocque, occupait le siège du ministère public. Derrière la cour, M. Lescouvé, procureur de la République, M. Gilbert, juge d'instruction et plusieurs autres magistrats avaient pris place. Nous n'entrerons pas dans les détails de ce procès qui devait durer plusieurs audiences. Nous nous occuperons surtout des principaux accusés, laissant de côté le menu frottin, c'est-à-dire les comparses, les receleurs, qui ne risquaient pas leur tête. Ce fut Dieudonné qui fut interrogé le premier. Correct d'allure, soigné dans sa mise, mais nerveux, agité, l'accusé commença par nier énergiquement toute participation au crime commis par Bonneau et sa bande. « Je déclare, dit-il, que je ne suis pas un malfaiteur et que j'ai toujours vécu de mon travail. Un travailleur et un malfaiteur, les deux termes ne vont pas ensemble. De mes co-accusés, je ne connais que Reynard et Deboué. Tous les anarchistes ne sont pas des bandits. » Quant à Calmin, dit Raymond la science, qui, les cheveux lustrés, le visage rond, semblait narguer à la fois la cour, les jurys et l'assistance, il conservait l'attitude ironique qu'il avait été au cours de l'instruction. « Vous vous appelez Calmin ?» fit le président. « Oui, dit-il, j'ai pas changé de nom depuis hier. » Comme on lui demandait pourquoi il partait 3 pistolets et 8 chargeurs au moment de son arrestation, il s'écriait « Ben, je faisais la contrebande des armes !»« Cependant, observe le président, vous avez avoué avoir participé au crime de la rue Ordonneur et bien autre chose encore. »« Oh, je fais tant de plaisanteries !»« Mais vous avez dit à l'inspecteur de la Sûreté, ma tête à moi vaut 100 000 francs, la vôtre ne vaut que 7,5 centimes. » Et Raymond, la science de Crané, j'ai écrit aussi à M. juge d'instruction. Comme vous semblez prendre tout au sérieux, indépendamment de mes aveux relatifs aux mœurs de Charlemagne, je tiens à vous annoncer que j'ai de mes propres mains étranglé Louis XVI. Et pendant tout le temps que va durer son interrogatoire, Calmin ne changera pas d'attitude, ni en tout avec un cynisme révoltant et allant jusqu'à dire au président « Bon, vous ne faites que monologuer, il n'y en a que pour vous. » Ensuite, ce fut au tour de Monnier, dit Simantoff. L'acte d'accusation lui reprochait principalement, après s'être approprié les papiers et l'état civil du sujet turc Simantoff, devoir aider Bonneau à préparer ses crimes et sommé de s'expliquer au sujet du fameux télégramme adressé d'Allais à Dieudonné, il avait d'abord déclaré à l'instruction que, parti souffrant de Paris, il avait voulu rassurer son ami sur son état de santé. Puis, se contredisant, il avait encore prétendu qu'ayant voyagé sans billet, il avait informé par cette dépêche ses amis qu'il était arrivé en bon port. Et comme le président lui faisait remarquer ses contradictions, il s'écriait « C'est un oubli. Oh, vous savez, on oublie bien des choses. Il est vrai que mon télégramme aurait pu être plus clair, mais qui ne fait pas de bêtises. Reconnaissez-vous, lui demandait M. Cournot, avoir pris part aux attentats de Montgeron et de Chantilly? Oh, ça non, par exemple. Mais pourtant, des témoins vous ont vu le 28 mars pour un peu avant l'assassinat du chauffeur Matillet, faisant des 100 pas sur la route de Montgeron. Je le nie. Et à toutes les questions précises que lui posait le président, questions d'autant plus troublantes et embarrassantes pour lui qu'elles reposaient sur des faits établis, Monnier se contenta de répondre, soit en haussant les épaules, soit en évoquant un alibi. Cependant, il n'allait pas tarder à s'enferrer. Oh, la seule chose que vous aviez contre moi, s'écria-t-il, c'est que j'ai logé chez Gossy quelques jours avant Bonneau. Ah, vous m'y faites penser, s'écria M. Cournot. En partant, vous annoncez à votre hôte qu'un ami viendra bientôt vous remplacer. Il se présente en votre nom et c'est Bonneau. Vous voyez bien que votre système de défense ne tient pas debout. Cette fois, Mounier marquait le coup en se rasseyant sans rien dire. Quant à Soudy, il avait préparé un discours. Comme il n'était pas sûr de sa mémoire, il l'avait écrit, et d'une voix enrouée par la tuberculose, il lut ce qui suit. « À vous, messieurs de la cour, à vous, messieurs les jurés, je tiens à déclarer ceci. Ne vous remettez pas le droit de me juger. Vous n'êtes ni des êtres surnaturels, ni des dieux. » Vous êtes des hommes, souvent égarés par l'intérêt ou par la passion. J'accepterai cependant le débat parce que j'ai de la conviction que le jury me déchargera de l'accusation qui pèse sur moi. » Après avoir raconté son enfance et médit copieusement des différents patrons sur les ordres desquels il avait travaillé, il déclarait « Cela dura jusqu'au jour où, prenant conscience de moi-même, je quittais mon dernier patron, un alcoolique, type de l'ignorant parvenu, dont on sentait, sous l'arrogance de théâtre, la mentalité de l'esclave. Et supposant que j'ai eu de mauvaises fréquentations, la responsabilité en incombe à ceux qui avaient charge de m'éduquer. » Après avoir laissé l'accusé donner lecture de ce factum, qui produisit sur l'assistance un effet diamétralement opposé à celui qu'il escomptait, le président lui dit « Mais maintenant, passons au crime. » Soudy se contenta de nier tout en bloc les faits, les témoignages, affirmant une fois de plus que ceux qu'il avait reconnus se trompaient, et que d'ailleurs, s'il admettait les crimes contre la propriété, il avait toujours éprouvé l'attentat à la vie humaine. Caroui se leva à son tour. Après lui avoir reproché différents vols et méfaits, que, fidèle à la même tactique que ses camarades, Caroui nia énergiquement, le président en arrivait au crime commis à Thiers sur la personne de M. Moreau et de sa servante. Et rappelant à l'accusé que M. Bertillon avait découvert ses empreintes digitales ainsi que celles de Medge, il s'écriait « Vous et Medge étiez les assassins !» Maître Zévax, défenseur de Caroui, se dressait à la barre en disant « Oui, monsieur Bertillon atteste que mon client a signé son crime. On aurait retrouvé sur le secrétaire de monsieur Moreau l'empreinte de son pouce gauche. Les événements de 1894 n'ont donc rien appris à l'accusation. » Pour moi, et M. le procureur général sera certainement de mon avis, M. Bertillon est disqualifié depuis l'affaire Dreyfus. M. Fabre protestait. Je considère M. Bertillon comme un honnête homme, et j'en fais grand cas. Cet incident clos, le président demandait à Caroui. Et si vous n'étiez pas coupable, pourquoi avez-vous cherché à vous tuer? Et Caroui répliquait. Devant toutes les accusations, vous savez l'objet. J'avais qu'une idée, c'était de me faire oublier. Qu'on ne parle plus de moi, afin que je puisse me refaire une existence. Et toujours on me représentait comme un chef de bande, et toujours on disait « la bande à Caroui ». Mais si j'avais été un chef de bande, j'aurais eu de l'argent sur moi. N'avais que 100 francs lorsqu'on m'a arrêté. Quand je suis arrivé devant la gare, j'ai vu d'abord une automobile qui stationnait dans le village. Puis sur un banc près de la gare, quatre hommes qui étaient assis. Et quand ils se sont jetés sur moi, j'aurais pu tirer avec mes revolvers. Et je leur ai dit au contraire, me frappez pas, je suis armé. Un homme qui dit cela, monsieur le président, c'est pas un homme qui veut tuer. J'avais pensé qu'il me fouillerait pas trop minutieusement. J'avais un poison sur moi, je me disais, oh, la première occasion, je l'avalerai, comme ça tout sera fini. Voilà toute la vérité, monsieur le président. On entendit ensuite Marius Medge, et impossible d'obtenir de lui le moindre aveu. Et pourtant, Medge, lui aussi, avait signé son crime. Sur le secrétaire de M. Moreau, la paume de sa main gauche avait laissé des empreintes spéciales, celles d'une main de cuisinier ou certaines brûlures, laissèrent des traces qu'aucune autre main ne pouvait reproduire. Cette preuve accablante, Medge se contenta de déclarer: Monsieur Barillon se trompe. Glissant sur les interrogatoires des autres accusés, qui d'ailleurs n'apporteraient aucun nouvel élément à la discussion, et arrivant à une des scènes les plus tragiques du procès. Après avoir entendu les témoignages de M. Jules Normand, propriétaire de l'automobile volée à Boulogne-sur-Seine le 14 décembre 1911, M. Chevassu, chef du personnel de la Société Générale et du docteur Paul, l'éminent médecin légiste, le garçon de recette, M. Cuaby, était introduit dans la salle. Après lui avoir fait raconter la scène au cours de laquelle il avait failli périr, le président lui demandait: Quand Dieudonné a été arrêté, on vous l'a présenté. Vous l'avez reconnu sans hésiter. Le voilà encore ici. Le reconnaissez-vous? M. Cabi, regardant et désignant l'accusé, répondait d'une voix ferme: Oui, je le reconnais, c'est lui, et ce ne peut pas être un autre. Dieudonné n'avait qu'un cri: Je suis innocent! La question est très grave, M. Cabi, reprenait le président. Elle peut entraîner une sentence capitale. La tête d'un homme est en jeu ici. Mais le témoin s'obstinait. Je ne me trompe pas, c'est lui mon agresseur. Dieudonné s'écria d'une voix rauque, frémissante. Monsieur Kaby, je vous adjure, non pas de dire la vérité, mais de rassembler vos souvenirs. Vous avez devant vous un père de famille. Moi, je n'ai pas de haine pour vous que je ne connais pas. Et même si votre déclaration me conduit à l'échafaud, j'expierai sans remords le crime d'un autre. Mais je vous jure, monsieur Gabi, sur la tête de ma femme et sur celle de mes enfants, je ne suis pas votre agresseur. Si j'ai dit un mensonge, que cet anathème retombe sur ceux que j'aime. Mais regardez-moi donc, je ne suis pas un criminel, et vous le savez bien. Monsieur Gabi, dont la bonne foi n'était même pas discutée par celui qui l'accusait, s'écriait: Mais vous êtes mon agresseur, je le jure à mon tour sur la tête de ma femme. Monsieur Kaby, intervenait l'éloquent défenseur de Dieudonné, maître de Moreau de Giaferry, je vous jure que vous commettez la plus déplorable des erreurs. Alors Dieudonné s'écriait avec véhémence: Quelle folie! Je risquais ma vie rue d'honneur, mais pourquoi? Pour une misérable somme d'argent, moi qui gagnais 20 francs par jour. Oh, je donne ma parole la plus formelle, je suis innocent, je vous le jure! Je vous le jure, je vous le jure. Et maître de Moreau de Giaferry ajoutait: Cabia affirme que le meurtrier a fait feu de la main gauche. Or, Dieudonné n'a jamais été gaucher ni ambidextre. Avant que le débat soit achevé, j'apporterai la preuve que le témoignage de cet homme, qui a été un héros infaillible, repose sur l'erreur. Et comme Dieudonné, je lui répondrai: Je jure que vous vous trompez. Mais si les autres témoins se montraient moins affirmatifs que le garçon de recette, M. Pimans, qui accompagnait ce dernier, lors de l'attentat, reconnaissait formellement Dieudonné. Une autre déposition allait soulever une grande émotion. C'était celle de Madame Dieudonné, mère. Vêtue d'une rotonde noire, coiffée d'un pauvre chapeau où pendaient quelques brindilles de verdure et boutons d'or, d'abord sans émotion apparente, puis avec des larmes dans la voix, elle déclarait « Mon fils a quitté son travail le 19 décembre pour venir chez moi, où il est resté toute la semaine. Il est reparti que le jour de Noël. C'était un bon fils, travailleur, courageux, tout à fait désintéressé. Il y a un an que je souffre, je ne comprends rien à son arrestation. » Et sa mère s'en fut après avoir adressé un long regard à son fils, qui, à bout de force, éclata en sanglots. Le long défilé des témoins continuait. Ce d'Avray-le-Duc était formel. Pour Bonneau, Garnier, Dieudonné, et partagé pour Calmin. En revanche, personne ne reconnut Bouet, dont pourtant le faux-col était dans la voiture. Les témoins de Montgeron et de Chantilly reconnurent formellement Monnier, Calmin et Soudy. Après avoir entendu quelques rares témoins à décharge, Maître Moreau de Giaferi donnait lecture de la lettre qu'il venait de recevoir d'un complice de Bonneau qui n'avait pas été arrêté, le nommé Bernard Kordeski. Dans la conversation, écrivait le bandit en fuite, que j'ai entendue entre Bonneau et celle que j'ai eue avec eux, j'ai acquis la conviction que ce n'est pas Dieudonné qui a blessé Cabi. Il n'avait aucune raison d'altérer la vérité et de s'accuser devant moi, alors qu'ils étaient encore en liberté. C'est qu'aucune preuve formelle n'existait contre eux. Monsieur le procureur Fabre pouvait alors commencer son réquisitoire, posant immédiatement la question de principe. Ces accusés, si fiers de leur crime, s'écriaient-ils, ont beau chercher des attitudes, leurs vaines déclamations ne sauraient nous émouvoir. Qu'ils aient trouvé des admirateurs en ces jours de curiosité malsaine et d'énervement, cela se peut. Ils s'en trouveront encore sous prétexte de louer l'énergie, l'entraînement, les belles prouesses sportives. Mais le vrai courage n'est pas chez eux. Il est du côté de ceux qui tombèrent dans l'accomplissement du devoir. Pour ces hommes, rien ni personne ne pourra changer leur caractère de bandit. Leur arrestation a commencé à resserrer la France. Leur condamnation achèvera l'œuvre. Je viens vous la demander. » Puis en un exposé d'une clarté remarquable, après avoir établi les faits et réparti les responsabilités, M. le procureur Fabre s'écriait dans une péroraison remarquable « Dans un pays comme le nôtre, modèle de civilisation et de progrès, foyer d'art et d'industrie, des bandits ont pu s'imposer quelques jours par la terreur. Ça serait fait de toute autorité, de toute justice, s'ils étaient impitoyablement punis. Ils le seront grâce à vous. Et moi, prenant comme je le dois ma part de responsabilité, je requiers le châtiment suprême contre tous ceux qui ont voulu donner la mort. Ces hommes sont Dieudonné, Calmin, Soudy, Monnier d'Issy-Bintoff, Karoui et Medge. En ce qui concerne Gauzy, en raison de son passé et de sa famille, je ne m'oppose pas à la mission des circonstances atténuantes. Tout autre verdict serait incompris. Je vous adjure de faire votre devoir, de rendre ainsi au pays cette paix, cette sécurité, sans lesquelles il ne saurait y avoir ni réelle prospérité, ni pensée même d'avenir. » Et le procureur général se rasseyait au milieu des bravos de l'assistance. Le substitut Bloch-Larocque requérait ensuite, contre les autres accusés, Rodriguez, Belloni, Bouet, Dettevillers, etc., etc., qui, sans avoir mérité des peines aussi sévères, devaient cependant être sérieusement châtiés. C'est ensuite au tour des défenseurs. Après avoir entendu Maître Haddad pour Madame Maître Jean et Kilbalchitch, Maître Émile Michon pour Jourdan, Maître Cobinqui pour Denvillers, Monsieur André Berton pour Gouzy, Maître Bruno Dubron pour Monnier, Maître Doublet pour Soudy, Maître Zeval se levait pour nous montrer un kawi inattendu, une sorte d'anarchiste mystique et végétarien, non pas intellectuel, mais simple et sincère, et étrangement sentimental sous ses dehors rustes. Après avoir fait le procès de M. Bertillon et du service de l'anthropométrie, M. Vax s'écriait « On a dit que l'anarchie était la philosophie de la misère. Moi, je dis que c'est la misère de la philosophie. » Ensuite, Maître Le Breton prenait la défense de Medge, puis Maître de Moreau-Jaffery, en un plaidoyer magnifique, s'efforçait de sauver la tête de Dieudonné. Après s'être efforcé, tout en rendant un témoignage de la bonne foi de M. Caby, de démontrer que ce dernier avait varié dans ses dépositions et qu'il pouvait très bien s'être trompé, le grand avocat s'écriait « Il est une partie de l'instruction. Nous n'avons pas entendu un mot au cours de ces nombreuses audiences. C'est tout ce qui est relatif à Bonneau et à Garnier. Ce sont les mémoires de Garnier dont il n'a pas été parlé dans cette salle, alors que l'accusation tout entière repose sur eux, et qu'elle a pris dans les pages écrites par le bandit, alors qu'il pouvait prendre encore de tomber entre les mains de la police tout ce qui était de nature à constituer des charges pour l'accusation. Les crimes dont cet homme s'est reconnu coupable, les crimes qu'il a revendiqués, l'agression contre Caby, l'assassinat de l'agent Garnier, place du Havre. Vous avez laissé tout cela dans l'ombre. Vous n'avez cherché dans ses mémoires que des preuves de la culpabilité des hommes qui sont ici. Quand Bonneau qui fut un misérable, un bandit et qui mourut, bien, quand Bonneau, râlant presque, a écrit sur le papier qu'on a retrouvé taché de sang, que Dieudonné était innocent. Vous n'avez pas tenu compte de cet aveu suprême qui s'échappait de sa bouche. À ce moment-là, d'autres qui sont ici, sur les bancs des accusés, étaient déjà arrêtés. De cela, Bonneau n'en a pas parlé. Il n'a parlé que d'un seul, de Dieudonné, et il n'en a parlé que pour proclamer son innocence. Et voilà que, pas un instant, au cours de ces débats, il n'a été question ni de Bonneau ni de Garnier. Tous deux ont avoué des crimes, peu vous importe. De telle sorte que s'ils étaient aujourd'hui sur ces bancs, ils n'apparaîtraient que comme des comparses, eux qui ont revendiqué la gloire sinistre d'avoir été les chefs. Si après cela, messieurs les jurés, vous avez le courage de condamner aux 6 hommes à mort, prenez la responsabilité du sang. Moi, j'ai fait mon devoir. Messieurs, l'enfant de cet homme a 8 ans. Il ne sait rien du drame où nous nous débattons. Puisse-t-il n'apprendre jamais cet horrible dénouement? Son père tué par des juges faillibles, sous la pression de l'opinion publique déchaînée. Oh, je vous en supplie, au nom des principes qui sont les nôtres, comme les miens, ne jetez pas au vent de l'erreur une sentence nouvelle d'anarchie. » Maître Boucheron, qui avait la tâche ardue entre toutes de prendre la défense de Calmin, prenait la parole. Il s'efforça de semer le doute dans l'esprit du jury en mettant en valeur certaines contradictions qu'il avait relevées dans les dépositions de plusieurs témoins. Mais, ainsi qu'on va le voir, aucune éloquence humaine n'eût été capable de fléchir le jury. En effet, Dieudonné, Calmin, Monnier, Soudy étaient condamnés à la peine de mort. Kawi et Medge aux travaux forcés à perpétuité. Cosy et Jourdan à 18 mois de prison. Belloni à 4 ans de prison. Reiner à 1 an de prison. Kribalchitch à 5 ans de réclusion. Deboué à 6 ans de travaux forcés. Denvillers à 4 ans de prison, Crozat de Fleury à 5 ans de réclusion, Bénard à 6 ans de réclusion, Boyer à 5 ans de réclusion. Les femmes, Schouffs, Montrejean, Leclerc, ainsi que Rodriguez, étaient acquittées. La parole était donnée aux accusés sur l'application de la peine. Dieudonné, qui depuis un instant pleurait dans son mouchoir, relevait la tête en criant « Je jure, je suis innocent !» Et Calmin déclarait au milieu d'un grand silence « Maintenant, je dois tout dire, je ne demande rien pour moi. J'affirme que Dieudonné n'est pas coupable. C'est moi et Garnier qui avons attaqué Caby. J'écrirai à ce sujet une lettre au procureur général. Et j'ajoute que c'est moi qui, lorsque Caby était à terre, lui ai arraché sa sacoche et l'ai jetée dans l'automobile. » Et maître Mahaud Giaferi, qui allait immédiatement déposer des conclusions demandant à la cour de lui donner acte de ses paroles, s'écriait « Telle est la valeur du témoignage humain !» Le même soir, à 21h, Caroui s'empoisonnait dans sa cellule de la conciergerie avec du cyanure de potassium qu'il avait caché dans le talon de sa chaussure. Le 21 avril, au petit jour, Monnier, Soudy et Calmin étaient exécutés. Quant à Dieudonné, sa peine était commuée au bagne à perpétuité. Soudy fut le premier à expier. Atrocement livide, se soutenant à peine, il murmura « Au revoir, il fait bien froid aujourd'hui. » Calmin, qui semblait avoir conservé tout son sang-froid, grommela « C'est beau l'agonie d'un homme !» Et les dernières paroles de Monnier furent « Adieu à vous tous et à la société !» Dieudonné, qui avait bénéficié de la clémence présidentielle, était bientôt dirigé sur la Guyane et enfermé aux îles du Salut. Le 9 octobre 1821, accompagné de deux autres condamnés, il réussissait à s'échapper à l'aide d'un radeau hâtivement fabriqué avec des madriers et des tonneaux vides. Mais l'alarme fut aussitôt donnée et les trois évadés furent arrêtés quelques 48 heures plus tard en mer, au moment où ils allaient aborder la côte de la Guyane. Ils étaient immédiatement ramenés aux îles du Salut et placés sous une surveillance spéciale. Ce n'est que quelques années après, à la suite d'une campagne ardente menée par un de nos confrères de la presse parisienne, maître Albert Londres, que Dieudonné, qui n'avait pas cessé d'affirmer son innocence, recouvrait enfin sa liberté.